20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 5 janvier 1875. L'Opéra de Paris est inauguré. Charles Garnier, son architecte, ne sera même pas invité à la fête et devra payer sa place. Ce soir, les belles rayonnent aux bras des gentilshommes sur le parvis. On rivalise d'élégance, les plus beaux tissus, les décolletés pigeonnants, les coiffures audacieuses pour elles, les souliers vernis et les chapeaux haute forme pour eux. La foule se presse du côté du boulevard des Capucines. Ils sont 2000, 2000 à vouloir voir et être vus. Il paraît même qu'un étranger a proposé sa place pour la modique somme de 15 000 francs. Oui, car ce soir, c'est la magie des grands soirs. On inaugure l'Opéra de Paris et en grande pompe, s'il vous plaît, en présence du maréchal Mac Mahon, président de la République française. Tout le monde est là, tout le gratin de l'époque. Même le Lord Maire de Londres et la famille royale d'Espagne ont fait le déplacement. Il y a des politiques, des intellectuels, des journalistes. Le chef-d'œuvre exubérant et fastueux impressionne. 172 mètres de long, 101 de large et 79 mètres de haut. C'est le plus grand, le plus beau théâtre du monde, synthèse du style Second Empire ou du style Napoléon III. À l'intérieur, dit-on, le grand escalier à double révolution se gravit avec fierté. On peut même s'accouder au loggia à mi-hauteur pour regarder qui est là. On admire les candélabres, on fait des mondanités dans le grand foyer au plafond ornementé. Ont-ils une pensée pour Charles Garnier ? Jeune architecte de 35 ans, encore inconnu du grand public, c'est lui qui a remporté à l'unanimité le concours international ouvert par Napoléon III pour l'édification de l'Académie impériale de musique et de danse. Pendant 15 ans, il aura tout vu, tout vécu pour mener à bien son projet magistral. Son budget initial a été réduit de moitié par le ministre des Finances. Un incendie ravagera une partie de l'édifice. Une vaste étendue d'eau marécageuse sera découverte sous l'Olympia. Mais ce soir, toutes ces déconvenues s'effacent devant la beauté de l'Opéra de Paris. Tiens, au fait, Charles Garnier, vous l'avez vu, non ? Normal, il n'était pas inscrit sur la liste des invités. On l'a tout bonnement oublié. Le malheureux devra payer sa place 120 francs et en seconde loge de surcroît. Nous sommes le 5 janvier 1875. L'histoire est bien vache pour le père du plus bel opéra du monde. Mais quel opéra ! Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle à l'Opéra Garnier. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci à tous pour cette soirée exceptionnelle. Ce jour J, ce soir, à l'Opéra Garnier, notre guide Mathias Auclair. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation, mais c'est vous qui allez me balader ce soir. Vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France et vous êtes auteur du livre L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, aux éditions Gourcuff-Gradenigo. Merci à vous Mathias Auclair. On est où d'ailleurs ? On est à l'Opéra de Paris ou on est à l'Opéra Garnier ?
Alors on est à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Garnier, mais c'est vrai qu'on a tendance à confondre l'institution et le bâtiment, oui. Ce qui montre d'ailleurs le rayonnement et la force symbolique de ce bâtiment. En fait, l'Opéra de Paris ou l'Opéra National de Paris, comme c'est son nom officiel, c'est une institution, un établissement public qui a deux théâtres aujourd'hui à Paris, l'Opéra Garnier ou le Palais Garnier et l'Opéra Bastille. Et ben, le Palais Garnier dans lequel nous nous trouvons, c'est une des salles, un des théâtres de l'Opéra de Paris.
Alors, notre jour J, c'est le jour de l'inauguration de ce que l'on appelait à l'époque donc l'Opéra de Paris. Cette inauguration, elle a eu lieu ici même où l'on se trouve. On est au pied du grand escalier. Racontez-nous justement cette soirée incroyable.
La soirée se passe le 5 janvier 1875, ouais. Dans un bâtiment qu'on appelle pas encore le Palais Garnier, mais qu'on appelle le Nouvel Opéra.
Alors, pourquoi Nouvel Opéra ?
Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de salles. Il y a eu 13 salles avant celle-ci pour l'Opéra de Paris, qui est une vieille institution créée par Louis XIV. Et évidemment, ce bâtiment n'était pas là du temps de Louis XIV. Donc l'Opéra de Paris s'est promené de salle en salle dans Paris. Souvent, ça s'est mal terminé, c'est-à-dire que ça s'est terminé par un incendie. Mmh. Et on a reconstruit un autre théâtre. Et quand ça se terminait pas par un incendie, ça se terminait par un attentat contre une personne de la famille royale ou impériale, ce qui faisait qu'on détruisait le bâtiment qui était marqué du sacrilège et qu'on reconstruisait ensuite une autre salle à Paris.
Voilà, donc, c'est Napoléon III qui a ordonné donc les travaux de l'opéra dans lequel nous sommes.
Alors c'est Napoléon III qui ordonne les travaux, effectivement après l'attentat d'Orsini, et on se dit à la suite de cet attentat qu'il faut construire un bâtiment qui va mieux assurer la sécurité de l'empereur et accessoirement quand même prendre sa place dans les grands projets urbanistiques de Napoléon III. Il ne faut jamais perdre de vue aussi ce projet politique et urbanistique de Napoléon III pour Paris, avec le souhait de marquer la ville de bâtiments emblématiques, évidemment, d'un opéra.
On en revient à notre jour J, le soir de l'inauguration. 2000 personnes qui étaient toutes invitées.
Alors l'inauguration, dans notre tête, c'est forcément une cérémonie sur invitation. En fait, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelques invités. Parmi les plus célèbres ou les plus marquants, le Lord Maire de Londres, le maire d'Amsterdam, le roi d'Espagne. Vous voyez, quelques personnalités qui ont marqué ce jour et qui ont fait les délices des chroniqueurs et des journaux. Et c'est eux qu'on a représentés de préférence, mais en fait, la plupart de ceux qui étaient là avaient payé leur place, parce qu'en fait, c'était aussi une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses que de faire une inauguration payante. Et il faut dire d'ailleurs que cette inauguration, elle se place à un moment très particulier. Vous voyez, 1875, on est quelques années après la grande défaite face à l'Allemagne. Et juste après cette défaite, le palais Garnier paraît vraiment comme un bâtiment du tyran, du despote, un bâtiment maudit dont personne ne veut. Il est même question de ne plus en faire un opéra, éventuellement de le détruire. Bref, tout y passe. Et en 1873, la salle de Pelletier, qui était la salle de l'opéra, brûle. Et là, on se dit, il faut absolument que Paris ait un opéra. Donc, on met de l'argent supplémentaire pour terminer le bâtiment autant qu'on le peut. D'ailleurs, le bâtiment est inauguré inachevé. Et lors de cette inauguration, là, pour le coup, c'est la fierté nationale. C'est la France qui, après la défaite, montre au monde tout ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est très intéressant aussi politiquement de voir comment ce bâtiment, qui était un bâtiment impérial et pas très aimé au moment de la République, devient l'emblème de la fierté nationale, l'emblème de la fierté républicaine. Et donc, effectivement, cette cérémonie, cette inauguration du 5 janvier, c'est aussi la fierté retrouvée après la défaite, la capacité de la France à rebondir et à produire des spectacles et à montrer sa société. Parce que on est dans cet escalier, vous voyez la dimension extraordinaire de cette partie du bâtiment. Hein. On dit, et je crois que c'est vrai, que l'escalier est aussi grand que la salle. Et pourquoi cet escalier est-il aussi grand que la salle? C'est simplement parce que cet escalier est une pièce très importante dans le dispositif architectural et social de l'architecte. C'est l'endroit où la société se montre. Parce qu'en fait, quand on vient à l'opéra au 19e siècle, on ne vient pas tellement voir un spectacle, on vient surtout se montrer. D'où la présence, vous voyez, de tous ces petits balcons qui environnent l'escalier. Et quand vous lisez la littérature qu'a abondamment produite Garnier, vous vous rendez compte que Garnier a un grand souci, c'est de mettre en valeur le public. Et que ce soit la couleur des ottofs, la forme des marches, tout est fait pour mettre en valeur le public et notamment les femmes. Donc la couleur rouge, c'est pour leur donner un teint rosé, la forme des marches, c'est pour leur donner une belle démarche, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est fait pour les mettre en valeur, nous mettre en valeur. Voilà.
Alors, on va l'emprunter, cet escalier, si vous le voulez bien. On va s'imaginer le jour de l'inauguration. On arrive, on fait partie des privilégiés, voilà. Mais nous avons effectivement payé notre place. Tiens, il en est un qui a dû la payer. C'était pas très juste quand même, c'était Charles Garnier.
Alors, Charles Garnier a dû payer sa place
120 francs.
C'est ça. Semble-t-il, c'est le protocole qu'il a oublié. Alors, il se trouve qu'il s'est quand même fait rembourser sa place après coup. Alors, on voyait dans le fait qu'il ait été oublié, le fait qu'il était en disgrâce. Alors, en même temps, quand vous regardez le dessin qui a été commandé à l'occasion de cette inauguration, c'est un dessin qui a été commandé à Monsieur Détaille, qui est aujourd'hui dans les collections du château de Versailles. Vous voyez que ce dessin d'abord représente l'escalier, qui montre la place tout à fait importante de cet endroit pour le bâtiment. Ensuite, il montre le Lord Maire de Londres en train de monter l'escalier. Et qui est entre les deux cariatides que nous voyons ici sur le palier, acclamé par tous? Charles Garnier. Donc vous voyez quand même,
il était là.
Il était là, il était acclamé. Il a été promu dans l'ordre de la Légion d'honneur à l'occasion de l'entracte, puisqu'il a reçu la médaille d'officier de la Légion d'honneur. Donc vous voyez, on est dans une position un peu ambiguë du pouvoir vis-à-vis de Garnier. Globalement, cette cérémonie a quand même été aussi un peu à sa gloire.
Plus grand opéra du monde, plus bel opéra du monde à l'époque. Et toujours ?
Alors, c'est le plus grand opéra du monde par sa superficie, 11 ou 12 000 mètres carrés, ouais. Les chiffres varient, mais enfin, on est de cet ordre-là. Ça n'est pas forcément la salle la plus grande du monde, parce que la salle de l'opéra fait quelque 2000 places, et je crois qu'aux États-Unis, on a déjà fait des salles plus grandes, mais enfin, ouais. C'est une des salles les plus grandes au monde par sa capacité, et c'est un bâtiment qui va frapper par une certaine forme d'originalité, et assez vite, ce bâtiment va devenir le modèle absolu de la quasi-totalité des salles qui vont être construites en Europe et dans le monde dans le siècle qui va suivre.
Le maître étalon, en fait, de l'opéra. Ce fameux escalier, on va l'emprunter. Est-ce qu'il faut que j'évite la marche 13 ?
Alors, je ne sais pas s'il faut que vous l'évitiez. En tout cas, on aime la montrer et la remarquer.
Est-ce qu'elle est d'ailleurs notifiée, cette marche ?
Non, mais vous voyez, quand on regarde l'escalier, on la voit tout de suite.
C'est celle-ci ?
Voilà.
Non !
Mais si.
Alors je vais... Non ! C'est dingue ! Alors oui. Attendez, mais je vais expliquer quand même pour ceux qui nous écoutent. Nous sommes au pied de l'escalier, enfin nous sommes montés sur la première marche. Donc devant nous, cet escalier à double révolution qui est extraordinaire, qui est en marbre, qui permet effectivement à ceux qui viennent le soir de l'inauguration et encore aujourd'hui en 2022 de voir et d'être vus, hein, parce qu'on est quand même dans une certaine mondanité lorsque l'on vient à l'opéra. Et devant nous, effectivement, une succession de marches en marbre absolument magnifiques et une marche qui sort du lot, qui est abîmé, qui est fendillé en son milieu, et on sent qu'il y a eu un choc. Alors racontez-nous la légende de la marche 13, est-ce que c'en est une ? Il paraît qu'une danseuse est morte en tombant dans cet escalier.
Il y a encore quelques temps, je racontais cette histoire en disant que c'était évidemment une légende, une des nombreuses légendes du Palais Garnier. On m'avait d'ailleurs raconté cette histoire quand je suis arrivé ici. On m'a montré cette marche, on a dit, voilà, on dit qu'une danseuse jouait sur les toits de l'opéra, sur la verrière qui est au-dessus de nous, et qu'elle a traversé la verrière, qu'elle est tombée sur l'escalier, évidemment sur la marche 13, et qu'il y a une partie du marbre qui s'est détachée. Évidemment, personne n'y croit. Et je découvre qu'il y a effectivement un fait divers qui arrive en 1910, c'est-à-dire en pleine rédaction, en pleine publication du Fantôme. C'est qu'un élève de l'école de danse, mais un élève masculin, qui s'appelle Roméo Rab, effectivement, traverse la verrière et se tue sur l'escalier. Alors, l'histoire ne dit pas si c'est sur la marche 13, si l'éclat de marbre provient
de cette
chute.
Est lié à cet accident.
Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qui est assez intéressant, c'est le mécanisme qui fait qu'à partir d'un fait divers affreux,
terrible,
on fabrique une légende et qu'en plus, le bâtiment en est marqué. C'est-à-dire que c'est aussi ce pouvoir du bâtiment à recevoir l'histoire et à ensuite en témoigner.
Le drame fabrique donc effectivement la légende, le culte de l'opéra Garnier. On va continuer à se promener, vous et moi. On va laisser nos auditeurs un instant et on se retrouve tout de suite à l'opéra Garnier pour la suite de Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive et passionnée à Jour J. Merci pour votre fidélité et merci d'être avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle car nous vous accueillons ce soir au cœur de l'Opéra Garnier pour vous raconter l'histoire de ce monument magistral. Mathias Auclair, merci beaucoup d'être notre guide. Je sais que dans un instant, vous allez m'emmener dans une loge mythique, mais on y reviendra. Vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes auteur d'un livre sur l'histoire de l'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, 15 ans de travaux. On y reviendra dans un instant, mais pour l'heure, racontez-nous où nous sommes. Je voudrais juste, c'est très difficile en fait, hein, d'expliquer à la radio les émotions qui nous étreignent dans certains endroits. Quand je suis arrivée ici, j'ai lâché, on peut le dire, c'est un peu anachronique, hein, oh putain, parce qu'à chaque fois que j'arrive ici, je suis absolument estomaquée par la beauté du lieu.
Alors c'est sans doute une des forces de ce bâtiment, c'est de nous impressionner toujours.
Toujours.
Et moi qui le fréquente assidûment depuis 20 ans, je suis toujours fasciné et impressionné. Et j'espère que tous ceux qui s'y rendront, que ce soit pour la première fois ou la millième fois à la suite de cette émission, continueront à éprouver ces émotions intenses qui expliquent d'ailleurs l'aura du bâtiment, ouais. Même chez ceux qui n'y viennent jamais,
ouais.
Mais qui ont l'impression de le connaître et qui en tout cas ont envie d'y entrer. Alors nous sommes dans le grand foyer. Pourquoi grand foyer ? D'abord parce que au Palais Garnier tout est grand, mais
voilà,
parce que le bâtiment a cette particularité d'avoir deux foyers, même un peu plus, un troisième avec le foyer de la danse, on ira, mais en tout cas deux foyers l'un contre l'autre, l'un jouxtant l'autre, un avant-foyer avec un décor de mosaïque Et ce grand foyer, qui rappelle évidemment la Galerie des Glaces de Versailles, qui est son grand modèle. Pour la petite histoire, le grand foyer est plus large que la Galerie des Glaces. Le grand foyer est plus haut que la Galerie des Glaces, mais il est moins long.
D'accord.
Voilà, puisqu'il y a 20 mètres de différence. Le grand foyer, c'est à peu près 50 mètres, et la Galerie des Glaces, à peu près 70. Mais voyez, il y a cette volonté de Garnier de se mesurer avec un des grands emblèmes de l'architecture française et de l'architecture de Louis XIV, qui est aussi un des grands modèles du Palais Garnier.
On est dans un monde d'or.
C'est doré partout, c'est peint aussi, avec ce grand programme iconographique conçu par Paul Baudry, qui était un des grands amis du peintre et qui a voulu faire sa Sixtine à Paris. D'ailleurs, vous voyez que Baudry a choisi ces scansions par ses pitis, qui rappellent un peu la manière dont a été architecturée la voûte de la Sixtine. Il y a évidemment ici, au Palais Garnier, beaucoup de références à l'Italie et au Palais romain ou au Vénitien, puisque comme vous le savez tous, Garnier est passé par la Villa Médicis à Rome, et d'ailleurs a été à la Villa Médicis avec la plupart des artistes qui ont ensuite collaboré ici. Donc le modèle italien est extrêmement important. Et ce qui effectivement frappe, c'est cette permanence de l'or, et ça avait d'ailleurs frappé les contemporains qui avaient accusé Garnier de jeter l'argent par les fenêtres en mettant de l'or partout sur son bâtiment. Et du coup, il a fait un ouvrage sur son bâtiment. Il dit, mais non, je n'ai pas utilisé tellement d'or. En fait, j'ai utilisé uniquement de la feuille d'or. Et en plus, j'ai essayé d'économiser l'or en faisant de l'or à l'effet. C'est-à-dire que quand vous voyez les sculptures qui sont en hauteur, vous voyez que l'or est appliqué par léger filet. Et qu'entre les deux filets d'or, il y a une petite teinte brune, qui est un jus brun qui est émis. Et c'est ce qu'on appelle de l'or à l'effet. Alors cet or à l'effet, il a deux avantages. D'abord, il épargne le matériau précieux, l'or, et ensuite, il donne plus de volume à la sculpture.
Alors je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, à venir visiter l'Opéra Garnier et visiter ce grand foyer, parce que c'est un endroit magnifique. Revenons à l'Opéra, si vous le voulez bien. C'est Napoléon III qui, après un attentat dirigé contre lui, a ordonné les travaux donc, de l'Opéra de Paris, Opéra Garnier, travaux confiés donc, justement à ce jeune architecte totalement inconnu du grand public.
Oui, et d'ailleurs, il faut dire que Napoléon III ne choisit pas Charles Garnier sur un carnet d'adresses. Il organise un concours d'architecture.
Alors, qu'il a remporté.
Voilà, exactement. Et alors, le concours d'architecture n'est pas une nouveauté, mais malgré tout, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a toute une série d'architectes qui concourent, des gens extrêmement célèbres, très en vue, notamment Viollet-le-Duc, qui a les faveurs de génie. Et au bout de deux tours, c'est Charles Garnier qui sort, qui est un très bon architecte, mais qui est au tout début de sa carrière, qui n'est pas connu. Et évidemment, on se pose en permanence la question, mais diable, pourquoi Napoléon III, pourquoi le concours a-t-il choisi Garnier? Alors bon, on arrive toujours à peu près à la même conclusion, c'est parce que le projet de Garnier était le meilleur.
Oui.
Ce qui n'est pas la plus mauvaise réponse. Effectivement, quand on compare les documents du concours pour ceux que l'on a, on trouve aussi que Garnier, avec les contraintes qu'il avait, a produit sans doute le meilleur projet.
Alors à propos de contraintes, il en a eu. C'est ce que je disais en tout début d'émission. Il a rencontré quand même énormément de difficultés dans ce chantier. 15 ans de travaux. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu ce qui s'est passé en 15 ans?
Bon, la première contrainte qu'il avait, c'était la configuration de la parcelle, qui était légèrement losangée. C'est vrai que ce n'était pas forcément la parcelle la plus aisée. Il y avait une autre contrainte très importante dont Garnier était conscient, mais qu'il a tout de même dû affronter, c'est la question du caractère marécageux du terrain. Donc assez vite, il se rend compte que l'eau arrive et qu'il faut trouver une solution. Et il imagine, c'est là où on voit que les architectes étaient aussi de très grands ingénieurs, le système de la cuve qui va lui permettre de contenir l'eau qui est dans le sol en faisant une cuve étanche. Et c'est ce qui a donné naissance au fameux lac souterrain, qui ensuite a produit toutes ces légendes extraordinaires. Voilà, donc il triomphe de l'eau en maçonnant cette cuve. Et ensuite, les choses se passent bien jusque dans les années 1868, où l'argent commence à manquer, Napoléon III commence à avoir d'autres chantiers plus prioritaires que l'opéra, et là, Garnier commence à se battre pour obtenir de l'argent pour finir son bâtiment, qui n'en finit pas d'en finir. Ensuite, 1870, la catastrophe, la défaite de Sedan, la commune. Le Palais Garnier sert à moult choses, sauf à y faire des spectacles. De toute façon, il n'est pas en état de recevoir des spectacles. On se pose des questions sur sa destination. On trouve qu'il est trop marqué par l'Empire. On demande à Garnier de revoir son programme décoratif, notamment parce qu'il avait mis des aigles partout à la gloire de Napoléon III. L'Opéra est un bâtiment extrêmement chargé en emblématique, et notamment en emblématique impériale. Donc Garnier ruse un peu avec les autorités. Vous verrez qu'il reste quand même quelques aigles sur le Palais Garnier. Et puis ensuite, coup de chance, entre guillemets, la salle Le Pelletier est détruite par un incendie. Il faut terminer très vite. Le gouvernement vote des crédits exceptionnels, fait un emprunt de 4 millions de francs or, termine le bâtiment très très rapidement en laissant les ailes occidentales et orientales dépourvues de décoration et inaugure le fameux 5 janvier 1875.
Vous parliez tout à l'heure du lac, hein, ce fameux lac sous l'Opéra Garnier, dont je parlais moi aussi en tout début d'émission, ce qui m'amène au fantôme de l'Opéra. Vous l'avez croisé, vous ?
Alors jamais, mais j'ai dû croiser des gens qui se disaient être les fantômes de l'Opéra.
En c'est tout incroyable cas, c'est, quand même,
hein. C'est mais une ça blague n'était pas qui...
On va se retrouver dans un instant, vous allez m'emmener dans la loge du fantôme de l'Opéra et on va revenir sur, sur cette légende, ce mythe qui concourt aussi évidemment à l'aura de l'Opéra Garnier. A tout de suite dans Georgie. Plus que jamais, j'ai le sentiment de vous faire partager quelque chose d'exceptionnel ce soir dans Jour J sur RTL. Nous sommes à l'Opéra Garnier et si je parle tout bas, c'est parce que Mathias Auclair, nous sommes là, au sein même de la salle donc de l'Opéra Garnier, pendant les répétitions. Hein ? Donc c'est-à-dire que pour expliquer à nos auditeurs, on est dans une salle que je ne vois jamais vide, évidemment, puisque je n'ai pas cette chance de pouvoir venir comme vous dans cet endroit mythique, dans une salle de plus de 2000 places, 2156 places, vide, rouge. D'ailleurs, le rouge est déposé, c'est ça, le rouge de l'Opéra de Paris ?
Oui, il est déposé, mais c'est vrai que Garnier a fait toute une série d'études, en tout cas, a beaucoup discuté de la couleur avant finalement de choisir cette couleur, dit-il, pour donner bon teint aux femmes, parce que le rouge a un reflet légèrement rosé. Évidemment, il faut aussi rapprocher le rouge de la couleur impériale.
Évidemment.
Les théâtres sous l'Ancien Régime étant plutôt bleu, qui est la couleur du roi.
Alors, vous trouvez que ça me va bien au teint ?
Parfaitement.
Bon, bah génial, donc je peux continuer. Alors, vous restez avec moi. Cette salle, donc, est vide. Et aujourd'hui, on assiste à des répétitions depuis une loge particulière.
Qui est la loge dite du fantôme de l'Opéra. En fait, la loge qu'a assignée Gaston Leroux,
l'auteur donc du fantôme de l'Opéra.
À son fantôme, la fameuse loge numéro 5, qui est une loge assez particulière, puisque c'est une loge de côté. Ça n'est pas une très bonne loge dans notre standard d'aujourd'hui. Au 19e siècle, c'était une très bonne loge, parce
Pourquoi
que tout le monde vous voyait depuis là où vous êtes.
Ah, j'avais oublié qu'au 19e siècle, on ne venait pas à l'Opéra pour l'Opéra.
Exactement.
Donc en fait, je suis visible depuis la salle en étant au sein de la loge de l'Opéra.
Voilà, c'est ça. En voulant être discret, en fait, on est dans une des loges les plus exposées et on est sûr d'être vu. Alors c'est pour ça qu'on est légèrement en retrait.
Mais c'est incroyable. Parce qu'effectivement, on ne voit pas très très bien la scène et on ne voit pas, alors ça n'existait pas à l'époque, mais on ne voit pas le fameux plafond peint par Chagall.
Voilà, alors sous le plafond de Chagall, il y a un plafond qui existait à l'époque, qui était le plafond de Le Neveu, qui est un plafond dans la grande tradition décorative et qui lui aussi évoque les plafonds de Versailles. Il a été recouvert en 1964 par le plafond de Chagall, le célèbre plafond de Chagall.
À la demande d'André Malraux.
Qui voulait mettre un signe de modernité au sein de ce bâtiment qu'il identifiait plutôt comme un bâtiment d'un âge ancien.
Voilà, et donc une toile qui a fait peur à beaucoup de gens, mais qui a remporté tous les suffrages lorsqu'elle a été découverte.
Alors ça a été assez discuté en fait. D'abord le chantier a été confié à Chagall et ensuite au moment de sa découverte, il y a des gens qui ont trouvé que ça jurait. Il y a toujours d'ailleurs une polémique autour de est-ce qu'il faut enlever ce plafond ou est-ce qu'il faut le conserver. Aujourd'hui il appartient pleinement à l'histoire de l'Opéra de Paris, à l'histoire de ce bâtiment et il est aussi identitaire que le grand escalier ou grand foyer.
À propos de foyer, dans un instant vous allez m'emmener au foyer de la danse, mais je voudrais qu'on revienne sur le fantôme de l'Opéra. Gaston Leroux a créé un personnage sur un mythe, sur une légende en fait, hein. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Alors en fait Gaston Leroux, il capitalise sur plusieurs faits D'abord sur l'incendie de la salle de Pelletier et le fait qu'un pianiste aurait été défiguré lors de cet incendie et qu'il serait réfugié au Palais Garnier, qu'il y aurait vécu dans une semi-clandestinité. Voilà, ça c'est ce qui fonde le personnage du fantôme lui-même, même si chez Gaston Leroux, il n'est pas question de toute cette histoire, il est plutôt question de quelqu'un qui est difforme à la naissance. Et ensuite, Leroux est sans doute titillé, excité par toute une série d'événements extraordinaires qui se passent dans le Palais Garnier. La chute d'un contrepoids du lustre à la fin du 19e siècle qui tue un membre du public, une spectatrice exactement. Le fait qu'en 1907, on enterre des disques enfermés dans des urnes dans les souterrains de l'opéra. Et puis l'histoire que je vous ai racontée du petit rat qui se tue dans l'escalier. À ceci s'ajoute la magie qu'opère déjà le bâtiment sur le public. À la fois son architecture fastueuse, mais aussi ses toitures, ses caves, le lac souterrain. Bref, il y a toute une fermentation qui s'opère, féerique, et qui fait que Leroux produit ce roman, qui doit être aussi vu comme un roman à clé sur la direction de deux personnages qui sont le compositeur messager et son acolyte Broussan, qui dirige à cette époque l'opéra, d'où les deux co-directeurs que met en scène Leroux.
Vous m'emmenez au foyer de la danse ?
On y va.
Mais je sais pas danser. Hein.
Moi non plus.
Bon, alors tout va très bien. Oh, mais c'est dingue ! C'est dingue parce que pour venir jusqu'ici, Mathias Auclair, déjà, on est passé juste sur le côté de la scène. C'est une chance hein, pour nous, hein, vous savez.
Ah ben, c'est une chance pour tous ceux qui le font. Alors, il y a quand même un autre passage pour arriver au foyer de la danse que de traverser la scène. Mais c'est très bien qu'on ait fait ainsi parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passait au 19e siècle. C'est-à-dire que ceux qui avaient le droit d'accès au foyer de la danse, les fameux abonnés, avaient le droit justement de traverser la scène pour se rendre au foyer. Donc, on a suivi le trajet des abonnés qui traversaient comme ça la scène.
Scène d'ailleurs que l'on voit de profil et que l'on voit inclinée. Parce qu'il faut le savoir aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la scène de l'opéra de Paris, comme de nombreuses scènes d'opéra, est inclinée de sorte que l'on puisse voir tous les danseurs sur les ballets.
Tout à fait. Alors c'est un choix qui est fait par Garnier. Il n'est pas forcément fait dans tous les théâtres. Il y a des théâtres à pente et des théâtres à parterre plat. Mais en tout cas ici, c'est ainsi.
C'est un petit peu la même chose, si je ne m'abuse, dans Soyez de la danse, non ?
Tout à fait. Alors tout est ainsi que vous irez, je crois, dans les salles de répétition, vous verrez aussi qu'il y a une pente. Parce qu'il faut que les danseurs, notamment, puissent s'entraîner sur un sol qui ressemble à celui de la scène.
Alors, nous voici donc dans le foyer de la danse. Je le connais cet endroit et pourtant je n'étais jamais venue parce que je l'ai déjà vu en peinture.
Alors vous l'avez vu en peinture, vous l'avez vu en photo parce que c'est un lieu qui fascine, parce que c'est le seul lieu décoré du Palais Garnier qui en fait n'est pas dans les espaces vraiment publics du Palais Garnier. Donc évidemment, on a envie d'y aller. Et puis il y a toute cette légende ou cette histoire qui entoure le foyer de la danse. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un foyer de la danse à l'opéra depuis la fin du XVIIIe siècle, dans une salle qui s'appelait la salle Montansier, qui était occupée par l'opéra sous la Révolution. Et depuis, il y a toujours eu un foyer dévolu spécialement aux danseurs. Et à partir de la période romantique, le directeur de l'opéra, qui est un homme d'affaires, qui est responsable sur ses biens propres des finances de l'opéra, invente ce système de l'abonnement avec des privilèges attachés. Et parmi les privilèges, il y a celui de pouvoir venir au foyer de la danse.
Donc voir les danseuses.
Voir les danseuses, exactement. Et ça permet aussi aux danseuses de se trouver des protecteurs, parce que les danseurs et danseuses sont très mal payés, pour la plupart d'entre elles, et qu'avoir un protecteur, c'est une retraite, une façon de vivre plus aisément, avoir un hôtel à Paris, et ainsi de suite.
Voilà, parce qu'il faut préciser effectivement que les danseuses étaient souvent issues de milieux modestes, très modestes. C'était des jeunes femmes qui arrivaient à Paris et qui étaient sûrement très esselées. Et à cette époque, et d'ailleurs on le retrouve dans les toiles de Degas, hein, à cette époque, il y avait non seulement l'homme qui était très présent, les danseuses, et il y avait des mères, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs les mamans, hein, mais qui étaient des femmes qui à un moment donné étaient un petit peu proxénètes sur les bords.
Ah oui, je pense que c'est allé jusque là.
Parce qu'on parle de gamines quand même, hein, 13-14 ans, c'est
tout à fait. Et d'ailleurs, le directeur Véron dont je parlais raconte dans ses mémoires qu'effectivement, un certain nombre de mères lui disaient que voilà, alors leur fille était à vendre, ou plus offrant.
Voilà, donc il faut dire aussi que l'histoire de la danse a été marquée parfois aussi par des parcours douloureux de jeunes filles qui se retrouvaient au foyer de la danse et que les hommes venaient visiter. En tout cas, c'était un contexte de l'époque, parce qu'à 13-14 ans, je ne suis pas persuadée effectivement qu'on ait conscience de tout ça, mais en tout cas, c'était un contexte de l'époque voilà, qui effectivement, vu depuis 2022, peut nous apparaître assez inédit et vient froisser en tout cas la morale. Donc on est là dans ce foyer de la danse, c'est là que je vais vous dire au revoir, Mathias Auclair, vous remercier de cette visite guidée au cœur comme ça de l'Opéra Garnier. Grâce à vous, on a pu en savoir beaucoup plus sur cette histoire. Je rappelle votre livre, Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, et je vous laisse nous donner l'éditeur.
Courcus, Gradedico.
Voilà, parce que vous le faites beaucoup mieux que moi. Merci à vous, Mathias Auclair. On se retrouve tout de suite pour la suite de Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Beaucoup d'émotions sur l'antenne d'RTL ce soir dans cette émission exceptionnelle au cœur de l'Opéra Garnier. Elisabeth Platel, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le studio de danse. Elisabeth, vous êtes danseuse étoile, vous êtes directrice de l'école de danse de l'Opéra National de Paris, basée à Nanterre. Vous êtes heureuse évidemment d'être dans cet endroit avec nous ce soir. Vous venez souvent ?
Je viens souvent, déjà pour les animations que font l'école de danse, les démonstrations, le spectacle, le concours d'entrée dans le ballet réservé aux élèves de l'école de danse.
Ça se passe ici.
Ça se passe ici. Et puis, bien évidemment, pour voir les spectacles, voir mes anciens élèves, voir leur progression.
Mais on les a vus là, vous croiser, ils étaient tous très heureux de vous retrouver.
Oui, et il y a aussi des danseurs que je suis pour les formations de professeurs. Donc là, il y avait une formation de diplôme d'État pendant un an, ouais. Et on a vécu tous les matins. Cette formation assez complexe pour eux et très lourde à assumer, mais on est fiers de voir qu'ils vont se destiner après à une autre, un autre métier.
Racontez-nous l'histoire de cet endroit où vous voulez bien nous accueillir.
Alors cet endroit, il a une double histoire, c'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu un studio qui s'appelait le studio Bayot. C'était la cheminée d'aération du lustre. Bien évidemment, le lustre, dans les années 50, était déjà électrisé, mais c'était pour nettoyer les ampoules, changer les ampoules. Moi, j'ai connu la salle Bayot, c'était d'ailleurs la salle où nous passions nos examens. Il y avait une fausse orchestre avec deux rangs de strapontins. Et puis, lorsque Rodolphe Nureyev est arrivé en 83, ouais. Il a à tout de suite demandé à avoir des studios, parce qu'il y avait une perte de place bien évidente, et on a construit ces trois studios. Donc le studio Petit Pas, la Nureyev a redonné les lettres de noblesse à Petit Pas, ouais. Et en bas, curieusement, on a eu deux studios qui s'appelaient Nureyev et Lifar, qui se côtoyaient et qui peuvent d'ailleurs s'ouvrir pour faire un grand studio.
Est-ce que l'âme de Nureyev est toujours là? Vous qui l'avez côtoyé, qui avez...
Je dirais l'âme de novateur, parce que Rodolphe Nureyev est arrivé avec un projet de la compagnie. Ouais. Bien évidemment, nous l'admirions en tant que danseur. Mmh. Il était venu régulièrement en invité. On avait peur de cette personnalité flamboyante, mais il a absolument convaincu les danseurs de ma génération avec sa merveilleuse création de Raymonda, où il a mis autant la valeur sur les étoiles, mais surtout aussi sur le groupe, sur le corps de ballet, où il disait que la star d'un ballet, c'est la compagnie et le groupe.
Ce fameux groupe composé d'anciens petits rats. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en préparant cette émission, c'est d'où vient l'expression du petit rat de l'opéra.
Il y a deux raisons. Il y en a une qui est jolie, qui est les courses que les enfants faisaient dans les couloirs sous les toits. Et d'ailleurs, ils courent toujours à Nanterre. Ouais. Et puis, il y en a une qui est plus sur la fin du 19e siècle, où ils étaient malingres, chétifs et nourris exclusivement par ce qu'on leur donnait. Donc, on va garder la belle raison qui était cette course dans les couloirs et les bruits des chaussons de pointe sur le plancher.
Que l'on entendait là tout à l'heure, effectivement, avant que les danseurs ne se mettent justement à virevolter, on entendait ces petits pas. Donc là, nous n'avons pas affaire à des petits rats. On est petits rats jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à l'entrée dans une compagnie.
Ouais, c'est ça.
Donc quitter l'école, c'est aussi être à l'Opéra de Paris, mais aussi dans d'autres compagnies en France ou à l'étranger. Bien évidemment, le premier désir, le premier rêve de chacun des enfants de l'école, c'est d'intégrer la compagnie de l'Opéra de Paris. Mais je suis très fière aussi d'avoir des danseurs qui sont à Bordeaux, qui sont à Toulouse et qui sont à l'étranger. On a beaucoup de liens avec Hambourg, John Neumeyer, mais il y en a aussi aux USA, au Canada. Donc c'est merveilleux de les voir un peu porter la parole française, de l'école française dans le monde.
Quand ils sont ici, comment ça se passe en fait, une journée d'un danseur à l'opéra ?
Elle est très longue. Déjà, la journée est très longue. Elle commence le matin par la classe. Donc cette classe étonne toujours les gens. Ah, vous prenez encore des classes. Le danseur sera un éternel élève autonome, mais il y a ce rapport au professeur qui est très important. C'est le professeur qui va... travailler sur le corps du danseur fatigué de la représentation de la veille. Nous sommes des artistes du soir, donc on arrive le lendemain matin avec l'angoisse du spectacle qu'on va faire, on va falloir peut-être récupérer de la fatigue. Donc ça, cette classe, elle est à la fois pour construire une technique, on a commencé à la construire enfant, mais en même temps pour entretenir cette technique, progresser et puis se préparer pour les répétitions qui durent toute la journée.
Donc là, nous assistons aux classes, donc avec des danseurs qui donc révisent leur mouvement, révisent leurs apprentissages.
Il y a une progression très importante dans la classe. Il y a d'abord un échauffement à la barre qui va durer 35 minutes à peu près. Très progressive, on va d'abord chauffer les pieds, puis on va lever les jambes et on va faire un peu plus d'endurance à la fin de la barre. Et après, au milieu, on recommence cette progression physique avec les dégagés à terre, les ronds de jambes, les pirouettes. Et la fin du cours, c'est l'endurance avec les séries de grands sauts pour les garçons et les pirouettes, les manèges, les fouettés pour les filles, la virtuosité.
Et le soir, on se produit ?
Le soir, alors l'après-midi, on doit répéter. Donc là, on va répéter une chorégraphie dessinée. On va éventuellement même faire une création avec un chorégraphe. Et le soir, il faudra se repréparer, mais un peu moins, puisqu'on a déjà travaillé le matin, pour le spectacle.
Combien de temps la carrière d'un danseur dure-t-elle ?
Je pense que c'est différent pour tous les danseurs. Ça dépend, on a ce corps qui va répondre ou ne pas répondre. On a l'envie aussi, parce qu'il faut aimer ce métier, il faut avoir la passion, il faut accepter les déceptions, il faut ne pas céder à des compliments trop faciles. Mais là, tous les danseurs qui sont à l'opéra sont des danseurs qui aiment la maison, on en parle, on dit la maison. Et ce sont des danseurs qui sont investis aussi dans l'évolution du répertoire, et on a un répertoire qui évolue suivant les âges.
Est-ce qu'il y a un âge de la retraite qui est fixé ?
Officiellement à l'Opéra de Paris, il est à 42 ans pour les garçons et pour les filles, mais maintenant je dirais que les danseurs se préparent un petit peu avant. Je parlais de la formation de professeur de danse, et c'est sûr que on est très très protégé à l'Opéra de Paris. On a la chance d'y être.
Alors nous aussi, on a la chance d'y être, et notamment grâce à vous. Moi, j'aimerais que vous m'emmeniez dans un atelier. C'est l'atelier Flou. Et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Vous pouvez m'y emmener ?
Suivez-moi.
Oh, génial. On profite encore de la musique un instant, de la danse, et on file à l'atelier Flou. Elisabeth Platel, je me rends compte, grâce à vous, à quel point l'Opéra Garnier est un monde à lui tout seul, en réalité. Toujours tourné autour de la danse, toujours tourné autour du spectacle. Et ici même, nous sommes dans un atelier de couture. C'est ça qu'on appelle l'atelier Flou ?
Alors, l'atelier Flou, c'est l'atelier pour les costumes de femmes. Vous avez les tailleurs pour les garçons, et pour les femmes, c'est l'atelier Flou. Donc, bien évidemment, par rapport aux tutus, par rapport aux jupes, mais en même temps, ce sont des gens aussi qui font d'autres costumes. Pour moi, c'est un atelier de haute couture.
Ce sont
vraiment des artisans extraordinaires, et ce sont des professionnels fabuleuses, avec toujours des idées.
Tout est produit ici ?
Il faut tout solutionner. Voilà, il faut toujours trouver la solution, et en particulier pour les danseurs, puisqu'il y a le mouvement. On ne pourra pas faire un costume historique sans imaginer qu'il faut lever les bras, il faut plier les tailles, il faut lever les jambes. Donc c'est vraiment des gens qui vont être les premiers traducteurs du désir du décorateur, Et il y a eu des grands, grands couturiers qui sont venus faire des belles productions à l'Opéra de Paris. Et je pensais en particulier à Christian Lacroix.
Oui, évidemment. Et avec ses couleurs et le style de Christian Lacroix, assez inimitable. Tous les costumes sont produits ici ?
La plupart des costumes sont produits ici. Quand il y a une énorme production à faire, souvent on a affaire à des ateliers extérieurs, mais qui sont vraiment très, très bien choisis. Et je dois avouer qu'avoir la chance de pouvoir être avec les ateliers de l'Opéra, en particulier pour l'école, c'est un bonheur. Parce que j'apprends aussi aux élèves à savoir ce qu'est un costume et le nombre d'heures qu'un costume représente. C'est très important qu'ils sachent que c'est pas juste un tutu, ce sont des heures de travail, des heures de fil, de toutes ces choses-là.
D'art, en tout cas. C'est vraiment de l'art.
C'est un atelier d'art.
Vous parliez des tutus, je vois pas un tutu.
On va vous emmener, je vais vous emmener au central.
Ah mais c'est quoi le central ?
Le central, c'est un lieu magique, c'est pour moi, c'est un grenier de merveilles.
C'est vrai ?
Oui.
Génial, allons-y. Bonjour ! Ça y est, on est arrivé ?
On est arrivé, on va rentrer. Oh. Et oui, on prévient qu'on arrive.
C'est génial !
Là, vous êtes face à la production de la Bayadère, donc qui va être remise aux mesures des danseurs qui vont danser au mois de mars-avril à l'Opéra Bastille. Donc le central, c'est un endroit vraiment historique, puisque vous voyez toutes ces armoires en bois qui ont beaucoup de production derrière les portes. On y étale, on y montre la production avant qu'elle aille dans l'atelier de couture. On regarde l'état des costumes, ceux qui doivent être juste remis aux mesures et ceux qui doivent être refaits intégralement. Ensuite, les costumes vont à l'atelier, donc soit tailleur, soit flou, puis reviennent au central une fois que tous les essayages ont été faits. Pour descendre ensuite, on parle de la mise en loge, et donc ça va descendre dans le service de l'habillement pour aller dans les loges des danseurs.
Quand vous dites qu'un costume est remis à la mesure, c'est-à-dire qu'un costume a plusieurs vies, fait évidemment plusieurs ballets, plusieurs opéras ?
Alors, c'est très beau parce qu'en fin de compte, vous avez, à une création, les costumes sont tous neufs et ils sont faits sur des danseurs. Et à ce qu'on appelle une reprise, certains costumes peuvent être remis par d'autres danseurs. Bien évidemment, le corps de ballet change énormément, mais pour les solistes, les étoiles, parfois on aime mettre le costume d'un danseur qu'on a admiré. Et il y a tout un système d'étiquettes à l'intérieur du costume. Il y a l'historique, alors après il va disparaître à certains moments, mais moi je sais que j'avais plaisir à mettre le costume de Guylaine Tesmar par exemple pour la sirène du fils prodigue. C'était ma petite mère, c'est toujours ma petite mère, et je me disais que le costume avait vécu le rôle avec elle et je m'en chargeais. La production de Bayadère, c'est une production très particulière puisqu'elle a été faite au moment où Rudolf Nureyev était très malade. On l'a totalement construite avec Franca Squarchapino. On était avec Isabelle Guérin qui faisait le rôle de Nikia, où tous les jours on allait aux essayages pour dire voilà, la couronne, on voudrait la faire comme ça. On a vraiment travaillé cette production. Les costumes, pour la plupart, les tissus, certains viennent de Bali, viennent d'Indonésie.
Donc c'est le voyage.
En fin de compte, il y a eu un moment où c'était il faut que cette première ait lieu, avec tout le respect qu'on avait de Rudolf Nureyev, et tout, on allait lui rendre ce qu'il nous avait donné. Et cette production, elle est vraiment symboliquement attachée à cette génération. Donc il y a Laurent Hiller qui était Solor, et puis aussi la deuxième distribution qui était Monique Loudière, Elisabeth Morin et Emmanuel Legris. Ça fait partie, c'était ses enfants qui lui rendaient hommage. Partout, par la danse, par les heures de répétition et par les costumes. Et c'est vraiment une très très belle production unique, particulière, qui est attachée à l'Opéra de Paris.
Vous êtes danseuse étoile. Je voudrais que vous nous racontiez juste les grades des danseurs.
Bon, il y a des grades dans d'autres compagnies, mais cette compagnie est particulière parce que les grades se montent par un concours de promotion. Et c'est la seule compagnie qui a un concours de promotion, tout comme entrer dans le ballet, c'est par un concours. Donc on commence quadrille, pour apprendre son métier, pour faire les ensembles. Puis on est coryphée, où là on peut avoir des pas de 6, on est un peu en avant. Sujet, on commence à être vraiment une personnalité particulière. On peut avoir des rôles de soliste, voire d'étoile. Et puis, le dernier grade du corps de ballet, c'est premier danseur. À la suite, on attend la nomination du directeur de l'opéra sur proposition de la directrice de la danse, Aurélie Dupont.
Et donc qui sacre danseur étoile.
Oui, ça sacre le danseur étoile, mais c'est le début de tout.
Oui.
Ça n'est pas une fin, c'est vraiment le début d'une carrière. C'est à la fois le début de la liberté, mais en même temps le début d'un devoir. Un devoir que le danseur étoile a aussi vis-à-vis de la compagnie, vis-à-vis des danseurs qu'il va entraîner dans son sillage. Et ça, c'est très très important. Un danseur étoile sans une compagnie, il n'est rien.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir guidés. Merci Elisabeth Platel. Et à bientôt, j'espère.
À bientôt, j'espère.
Vous me guidez, il faut que je retrouve le directeur.
Je vais vous emmener.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
Voilà, j'aurais pu me perdre dans l'Opéra Garnier, mais heureusement, Elisabeth Platel, danseuse étoile, directrice de l'école de danse de l'Opéra National de Paris, a été mon guide pour vous rejoindre. Alexander Neff, bonsoir, merci.
Bonsoir.
Beaucoup de nous accueillir à la maison.
Ouais, écoutez, on est très fiers de cette maison et ravis de vous accueillir.
Vous êtes directeur général de l'Opéra de Paris. Ça va, il y a pire quand même comme métier, non ?
Je suis très très heureux de mon métier. Vraiment, ouais. Je me sens chanceux chaque jour quand on peut franchir les portes de ce théâtre, surtout ce théâtre-ci, le Palais Garnier, un bâtiment magnifique, vraiment. Je l'appelle le Palais des rêves.
Oui, je comprends.
Parce que c'est vraiment, ça fait rêver par sa beauté. D'architecture déjà, et encore si on peut ajouter la beauté des spectacles, on a beaucoup de chance de pouvoir travailler ici.
Quand on vous a proposé justement d'en prendre la direction, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ça doit être vertigineux quand même, comme défi, comme pari ?
C'est un défi vertigineux. Après, je pense qu'il faut l'accepter avec beaucoup d'humilité, un grand sens de responsabilité. Parce que c'est ça, à la fin, gérer un théâtre, on a la responsabilité pour, pas seulement des spectacles, c'est pas abstrait, c'est la responsabilité pour beaucoup de gens.
Ouais.
Le grand nombre de personnes à un théâtre, c'est même pas un village, c'est une petite ville qu'on a ici, entre les effectifs artistiques, administratifs, techniques. Il faut rassembler toute cette petite ville pour avancer dans la même direction et arriver à faire des bons spectacles.
Alors, combien avez-vous d'habitants à l'Opéra Garnier ?
D'habitants, bon, dans les deux théâtres ensemble, l'Opéra National de Paris, c'est environ 1500 personnes.
Ce qui est beaucoup.
Ce qui est énorme. Après, on a deux grands théâtres, une activité très soutenue avec presque 400 représentation sur le Dieu Seine par an, presque 800 000 places vendues hors temps pandémique. Alors c'est une activité très très soutenue, il y a très très peu de théâtre au monde qui s'approche de ce niveau d'activité.
Vous parliez justement des temps pandémiques, comment va l'Opéra à Garnier en ces périodes qui ont été troublées ? Vous êtes arrivé en plein trouble en fait vous. Hein ?
J'ai commencé en septembre 2020,
ouais. Oui,
en espérant que vers Noël 2020, tout sera terminé. Bon, on sait tout que malheureusement,
ça n'a pas été le cas.
Ça nous est pas arrivé. Et là, on y est toujours, au moins depuis la rentrée de septembre 2021, on a pu jouer avec des salles pleines, ce qui est magnifique. Le mois de décembre était difficile avec la montée des cas, mais là, on a quand même réussi à maintenir la majorité de l'activité. Et là, le mois de janvier, c'est plutôt un mois de préparation de spectacle. On prépare dans les deux théâtres quatre opéras et un programme de ballet. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi exposé côté représentation publique, mais il faut toujours réussir à maintenir l'activité de répétition.
Et des répétitions auxquelles on a pu un petit peu assister aujourd'hui comme des petites souris, à défaut d'être des rats à l'opéra. On était comme des petites souris à venir justement regarder tout ce que personne ne voit et le partager avec nos auditeurs. Quel est le programme en 2022 ?
Là, sur l'affiche ou en répétition que vous avez vue, c'est la préparation de la nouvelle production des Noces de Figaro, ici au Palais Garnier, qui doit avoir sa première la semaine prochaine, le 21 janvier. En même temps, on prépare ici le ballet Body and Soul, une reprise de magnifique ballet de Crystal Pite, qui est vraiment une des plus grandes chorégraphes de notre temps. Et à Bastille, on prépare trois reprises d'opéra. La Kouvanchina de Moussorgsky, c'est vraiment un truc archi-épique, un grand opéra russe, avec un grand chœur, grand orchestre, beaucoup de solistes. C'est magnifique. Une reprise de Don Giovanni de Mozart, ça veut dire il y aura Mozart dans les deux théâtres au mois de février. Et ensuite, une reprise de Manon de Jules Massenet à l'Opéra Bastille.
Donc un beau programme. Merci beaucoup Alexander Neff d'être venu clore cette émission. Merci de nous avoir permis aussi cette visite absolument incroyable qu'on a pu partager avec nos auditeurs. Moi j'ai une dernière question à vous poser. Quand vous venez bosser, vous passez par où vous ?
L'entrée des artistes.
Ah c'est vrai ?
On n'a plus de clés, on a des cartes d'accès.
Ah !
Des cartes aux clés, c'est très moderne. Après,
vous n'avez pas un gros trousseau de clés ?
Non, j'ai une seule clé. Là, je voulais faire sonner.
Ouais.
Là. C'est une seule clé qui ouvre toutes les portes à Bastille et à Garnier. Et après, j'ai la clé des loges, ici pour Garnier.
Mais je vais vous séquestrer. On va séquestrer le directeur. Vous restez avec moi. Ou alors moi, je reste avec vous, mais on s'enferme ici. Merci beaucoup.
Oui, c'est agréable. Il faut s'enfermer. Merci à vous.
Merci Alexandre Neff, directeur général de l'Opéra de Paris, qui nous a accueillis pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup.